Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ravis de vous accompagner en cette rentrée dans la bonne humeur jusqu'à 6h30.
Il est 5h, Paris s'éveille.
Paris s'éveille en cette rentrée à 30 km/h. Voilà, c'est désormais la vitesse maximale autorisée dans la quasi-totalité des rues. Décision qui est loin de faire l'unanimité.
Oui, la mairie d'Anne Hidalgo invoque la pollution de l'air, la pollution sonore également, sans oublier les accidents avec les piétons. Est-ce une bonne mesure? Je poserai la question à 6h10 à mon invité, le grand spécialiste des transports, Gilles Dansart. Avant cela, Omblin, votre interview à 5h40.
Ils sont aides-soignants, auxiliaires de vie, aides à domicile. Ils sont ceux qui permettent aux personnes âgées et handicapées de continuer à vivre chez elles, un métier pénible, mal rémunéré, qui attire peu de candidats. La donne pourrait cependant évoluer à partir du 1er octobre avec l'application d'une augmentation des salaires de 13 à 15% pour les travailleurs en milieu associatif. On en parlera avec le secrétaire général de l'ADMR, Thierry Daboville.
Dans une vingtaine de minutes, nous vous emmènerons dans Lyon pour les initiatives en France. Et quelle initiative ce matin? Des habitants d'une zone blanche ont créé de toutes pièces un fournisseur d'accès à Internet alternatif et ça marche.
Tout comme la prescription culture à 6h moins le quart, on commence chaque semaine par la série incontournable du moment. Margot Barallon nous parlera de The Chair sur Netflix.
Quant à votre partition, Omblin, c'est un disque majeur du répertoire français qu'on peut enfin écouter sur les plateformes de streaming.
Et oui, indisponible depuis 2001 sur Deezer, Spotify ou autre et même dans les bacs à cause d'un conflit interminable avec sa maison de disques. Depuis cet été, vous pouvez à nouveau vous procurer le premier album d'MC Solar.
Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit
Claude MC, est-ce que tu peux descendre?
J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait
j'ai du mal comprendre la partition d'album fondateur du rap français qui sème le vent récolte le tempo à 6h20.
Nous, on va tâcher de semer de la bonne humeur pour un réveil en douceur. Voilà pour le programme de ce lundi 30 août sur Europe 1.
Et on commence notre rendez-vous avec la météo, bien sûr. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Mille, bonjour Julien.
Deux saisons pour la même journée ce lundi.
Vous l'avez compris, la France est coupée en deux. Et les grands gagnants sont encore les sudistes. Alors au nord de la Loire, de la Normandie à l'Alsace, le ciel est très couvert ce matin avec pas mal d'averses et automnales. Hein. Vraiment ce matin sur la moitié nord, c'est pas sympa. Sur la moitié sud, dès le début de la journée, le ciel est dégagé, très ensoleillé dans l'après-midi. Alors bonne nouvelle quand même, au nord de la Loire, dans l'après-midi, le ciel va se dégager. On va avoir droit à quelques belles éclaircies. Mais attention, de l'Alsace jusqu'aux Alpes du Nord, les averses seront fréquentes avec même quelques coups de tonnerre. Sur le quart nord-ouest, le vent souffle le long des côtes de la Manche. Et puis dans le sud, le Mistral aussi va souffler jusqu'à 50 km/h. Alors côté température, c'est complètement l'inverse. Forcément, vu qu'on a des nuages au nord,
c'est
il fait
meilleur.
Un peu plus doux. Voilà, avec 16 degrés à Paris, 14 à Strasbourg et à Lyon, 12 à Albi, là ça baisse dans le sud, 11 à Limoges, 8 degrés à Clermont-Ferrand. Et la minimale, couvrez-vous à Montluçon, il ne fait que 5 degrés ce matin.
Aïe, effectivement,
couvrons-nous. C'est encore l'été pourtant. Ouais.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, on vous retrouve dans une demi-heure. Place à l'info de ce lundi. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Nous avons initié un dialogue avec les talibans. Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance.
À 48 heures du départ définitif des Américains d'Afghanistan, la France espère encore procéder à des évacuations. Emmanuel Macron reconnaît qu'il va falloir négocier avec le pouvoir taliban. 1 800 000 salariés concernés à partir d'aujourd'hui par la mise en place du pass sanitaire en entreprise. Et à 4 jours de la rentrée scolaire, on prépare la vaccination des élèves de plus de 12 ans. À partir d'aujourd'hui, on le disait dans le sommaire, les automobilistes parisiens vont devoir lever le pied. Limitation de vitesse à 30 km/h. Elle entre en vigueur dans pratiquement toutes les rues de la capitale. Et puis une petite demi-heure de jeu, mais déjà des frissons pour les fans du foot. Lionel Messi a joué ses premières minutes sous le maillot du PSG hier soir à Reims, mais c'est Mbappé qui a mis les deux buts de la victoire parisienne. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. Emmanuel Macron espère donc encore pouvoir procéder à des évacuations d'Afghanistan. Le président de la République l'a dit hier soir sur TF1, alors que dans 48 heures, il ne devrait plus y avoir aucune présence occidentale à Kaboul. Le chef de l'État reconnaît que pour ce faire, il va falloir entamer des négociations avec le nouveau pouvoir taliban en place, sans pour autant que cela ne constitue une reconnaissance du régime.
Je ne connais pas les talibans qui ont pris le pouvoir militairement et je ne peux donc absolument rien vous dire aujourd'hui sur eux. Ce que je sais, c'est que nous allons tout faire pour obtenir des résultats et protéger des vies. Et soyons lucides, aujourd'hui, ceux qui ont le contrôle de Kaboul et du territoire, ce sont les talibans. Et donc, de manière opérationnelle, très pratique, nous devons avoir ces discussions. Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance, parce que nous avons posé des conditions. La première chose, c'est que les talibans respectent le droit humanitaire, le droit d'être protégé par l'asile. La deuxième chose, c'est qu'ils soient très clairs à l'égard de tous les mouvements terroristes. S'ils pactisent avec les mouvements terroristes, évidemment, ce sera inacceptable pour nous tous. La troisième chose, c'est le respect des droits de l'homme, en particulier du respect de la dignité des femmes afghanes. Et donc l'objectif est en effet d'obtenir les évacuations humanitaires de toutes les femmes et les hommes qui courent un risque. Est-ce que nous y arriverons ? Je ne peux pas vous le garantir.
La prudence d'Emmanuel Macron hier soir chez nos confrères de TF1, le président de la République qui assure que le flux migratoire d'exilés afghans, notamment vers l'Europe, ne sera pas comparable à celui des Syriens en 2015.
On évoquait hier de nouvelles menaces d'attentats sur l'aéroport de Kaboul. Eh bien, les États-Unis affirment en avoir déjoué un.
Effectivement, pendant que Joe Biden s'inclinait devant la dépouille des 13 soldats US tués dans l'attentat de jeudi dernier, l'armée américaine effectuait une frappe de drone contre un véhicule chargé d'explosifs suspecté d'être lancé par la branche afghane de l'État islamique. Une frappe qui aurait fait des victimes civiles. J'ajoute que ce matin, des tirs de roquettes ont été signalés au-dessus de Kaboul. On ne connaît pas encore précisément la cible de ces tirs de roquettes.
Aux États-Unis, l'ouragan Ida fait ressurgir le traumatisme de Katrina qui avait fait près de 2000 morts en 2005.
Des vents de près de 200 km/h se sont abattus sur la Louisiane. La Nouvelle-Orléans s'est barricadée. Les rues sont désertes. Des centaines de milliers de foyers sans électricité. Pour l'heure, on ne sait pas si cette tempête de catégorie 3 a fait des victimes.
5h04 sur Europe 1, c'est le jour J pour le pass sanitaire en entreprise.
Oui, il va concerner tous les employés qui sont au contact du public. On estime à 1 800 000 personnes le nombre de salariés qui seront contraints de montrer patte blanche en quelque sorte, sous peine de suspension de contrat de travail.
Et dans l'éducation nationale, c'est une rentrée sous le signe de la vaccination qui se prépare.
Une vaccination qui sera proposée aux élèves de plus de 12 ans, en gros à partir du collège, ce qui ne va pas aller sans poser quelques problèmes d'organisation, on l'imagine. Alors à 4 jours de cette rentrée, eh bien Virginie Riva est allée prendre la température dans un collège du 14e arrondissement de Paris.
Au collège Saint-Exupéry, vous pouvez déjà croiser quelques élèves venus suivre des activités avant l'heure de la rentrée. Nassim a 12 ans, il sera en 4e cette année avec un peu d'anxiété face à une nouvelle année sous Covid.
Cette année, je la sens pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cas de corona. Moi, je veux me faire vacciner.
Et alors, tes parents, ils sont d'accord pour le vaccin, tu penses ? Vous en avez parlé ?
Oui, mais que quand il y aura vaccination dans le collège.
À l'étage, la principale, Madame Chiche, s'apprête justement à envoyer les autorisations parentales aux familles pour la vaccination.
Nous avons déjà notre centre de vaccination qui est à côté de l'établissement. Je suis en train de préparer les documents à l'attention des familles, notamment la notice explicative, l'autorisation à la vaccination. Il y a également un questionnaire santé concernant le fait de savoir si l'élève a un test PCR positif au cours des 3 derniers mois, s'il a fait un vaccin au cours des dernières semaines, s'il a des antécédents d'allergie. C'est simplement pour mieux préparer cette vaccination.
Dans la cour de récréation, les élèves qui ont suivi des cours cet été laissent en héritage 2 grandes fresques colorées du Petit Prince, de quoi égayer cette rentrée.
Un reportage de Virginie Riva.
Autre nouveauté de ce lundi 30 août, la vitesse limitée à 30 km/h dans les rues de la capitale.
Oui, alors certaines mauvaises langues diront que ce serait déjà bien si on pouvait rouler effectivement à 30 km/h dans la rue de Paris. Mais bon, cette mesure déjà appliquée dans certaines grandes villes comme Grenoble ou Lille a été plutôt bien acceptée jusqu'à maintenant par les automobilistes. À Lille, Jacques Richir, l'adjoint chargé du cadre de vie et de la mobilité, tire un bilan plutôt positif.
Nous, le bilan est très satisfaisant puisque l'objectif premier, c'était l'apaisement de la ville, avec donc une ville beaucoup plus sûre pour les piétons et les vélos. On a eu un effet très positif qui était aussi la diminution du bruit. Sur la qualité de l'air, l'impact, il est neutre parce qu'en fait, il n'est pas démontré qu'à 30 km/h, la consommation soit moins qu'à 50. On a fait des mesures de vitesse. 60 à 65% des automobilistes respectent bien. On a à peu près 20 à 25% selon les rues qui respectent à peu près bien. Globalement, si vous voulez, il y a eu un impact très réel et qui a été remarqué. À tes points, c'est qu'on réfléchit pour savoir si les 12% qui restent, qui sont surtout des voies d'entrée dans la ville, on réfléchit à savoir si on ne va pas les passer aussi à 30 km/h.
Ouais, Jacques Richier, adjoint au maire de Lille, des propos recueillis par Caroline Baudry. C'est peut-être le dernier espoir de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. De nouvelles fouilles sont entreprises à partir d'aujourd'hui dans les Ardennes, près de Charleville-Mézières. C'est la 7e campagne de recherche depuis les aveux de Michel Fourniret, qui avait reconnu avoir enlevé et tué la fillette en 2003. Fourniret est mort en juin dernier. Son ex-femme, Monique Olivier, devrait être présente aujourd'hui pour guider les enquêteurs.
On passe à la politique. Toujours aucune certitude sur l'organisation d'une primaire à droite à l'issue des universités d'été, des LR à la Baule.
Oui, on ne s'attendait pas à ce que cela soit tranché, hein, pour dire vrai, mais effectivement c'est le statu quo entre ceux qui dénoncent les risques de division et ceux qui estiment qu'il faut désigner un candidat de façon démocratique. Reportage Charles Guyard.
Je vous invite à vous installer, les universités vont pouvoir démarrer.
Ambiance pour le moins détendue chez les Républicains, réunis samedi à la Baule, à tel point que Michel Barnier est arrivé, col de chemise grand ouvert et signe ultime de décontraction sans cravate. L'intéressé s'est soudain inquiété de son audace vestimentaire, mais Franck L'Ouvrier l'a d'emblée rassuré.
Merci d'être là.
Ah mais t'inquiète pas, tu es en tenue d'été, tu as raison.
Il était judicieux en effet de bien profiter de cette douceur estivale maintenant, car rien n'indique que ce beau temps va perdurer. Dans le ciel de la droite, du moins, où les nuages se sont d'ailleurs amoncelés ces derniers jours avec les déclarations de candidature à la présidentielle d'Éric Ciotti et de Michel Barnier, venues s'ajouter à celles de Valérie Pécresse et de Philippe Juvin, sans compter celle de Xavier Bertrand. Bref, une abondance d'ambition que Bruno Retailleau n'a pas hésité à épingler.
À chaque élection, on voit parmi nous, dans notre famille politique, ce qui est incroyable, des gens qui ont la gratouille, qui sont démangés, pressés par le plat de lentilles, par le Marocain.
Nul doute que le message a été bien entendu jusqu'à Brive-la-Gaillarde et à Nice, où Pécresse et Ciotti avaient respectivement préféré se montrer samedi, snobant ainsi la rentrée LR organisée sous le parrainage du sénateur vendéen.
Et pour moi, le pire, c'est la division.
La Baule, Charles Guyard, Europe 1.
Le sport, le foot, il a fait ses premiers pas sous le maillot du Paris Saint-Germain. Lionel Messi a fait son apparition hier soir à Reims.
Oui, 30 petites minutes de jeu seulement, suffisant pour les premières sensations. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, doublé de Kylian Mbappé, mais la star argentine a bel et bien électrisé le stade Auguste Delaune de Reims, Simon Rubin.
Avant même son entrée en jeu, on ne parle que de lui, Messi, dont le seul nom lâché par le speaker pendant l'échauffement suffit à électriser le stade. Et dans les tribunes, on chante en l'honneur de la légende. Puis vient le moment tant attendu, 65e minute, les flashs illuminent les tribunes, l'Argentin entre en jeu. Lionel Messi est une icône, un artiste qui dépasse le sport. D'un seul coup, le match bascule, moment de temps suspendu durant lequel le public n'a Dieu que pour lui. Et même pour les joueurs sur la pelouse, c'est intimidant, confesse le Rémois Andrew Gravillon.
Non, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est un joueur qu'on regarde depuis tout petit à la télé. L'année dernière, on le regardait en Ligue des Champions. Non, pour être honnête, c'est vrai que j'ai demandé son maillot pour mon petit frère. J'ai quand même essayé, mais bon. On verra la prochaine fois.
Alors Messi a-t-il marqué hier? Non. A-t-il illuminé la partie par quelques gestes magiques? Non plus. Et pourtant quelque chose s'est produit. Messi était là, dans cette apparition furtive, dans ces quelques ballons touchés, dans le frisson qui a parcouru le public. Hier, c'était tout simplement les débuts d'une légende du Paris Saint-Germain.
Une légende qui reste à écrire, malgré tout. Julien.
Voilà. Hein, bon, on attendra pour le vrai Messi pour le prochain match. Merci beaucoup Lionel Gougelot. Prochain journal complet à 5h30.
Europe 1, il est 5h10 et c'est l'heure des courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 503 Iron de Janeiro. Ce poulain à peine âgé de 3 ans fait preuve d'une louable régularité depuis le début de sa carrière. 6 courses, 2 victoires et 4 fois dans les 4 premiers. Il reste sur une démonstration le 15 août sur l'hippodrome d'Anguin et la course de cet après-midi est la suite logique de son programme où il n'aura certainement pas besoin de forcer son talent pour s'imposer une nouvelle fois. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 3, Iron de Janeiro.
Le numéro 3, c'est noté. Merci Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. 5h11, très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, on va ouvrir les journaux ensemble.
Oui, c'est le pressing, notre revue de presse décalée. C'est dans moins d'une minute sur Europe 1, tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h12 sur Europe 1. Pour les impôts, ça attendra. En attendant, c'est le pressing.
Oui, c'est le meilleur de la presse du jour, raconté par vos deux serviteurs, évidemment, et puis par Martin Lange qui vient de nous rejoindre. Bonjour Martin.
Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour à tous.
Alors, on commence avec les unes de vos principaux quotidiens. La droite cherche un chemin pour l'élection présidentielle. Voilà ce que titre Le Figaro. Alors que les Républicains lancent aujourd'hui une grande consultation auprès de ses électeurs afin de déterminer le meilleur moyen pour départager les candidats et surtout préserver l'unité. Les Échos consacrent leur une au défi de la sortie des aides pour les entreprises. Le quoi qu'il en coûte sera réservé à partir du 1er septembre au seul secteur pénalisé par les mesures liées à la pandémie. Les représentants des professionnels concernés ont rendez-vous d'ailleurs ce matin à Bercy avec Bruno Le Maire. Et puis Mbappé flambe, Messi en flamme. C'est la une ce matin du Parisien qui revient sur la victoire. On en parlait à l'instant hier soir, 2-0 du PSG face à Reims. Victoire marquée par le doublé de l'attaquant français que l'on dit sur le départ et les débuts sous le maillot parisien du sextuple Ballon d'Or. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous. Quel article avez-vous retenu ?
Une nuit romantique sous les étoiles, eh bien ça risque bientôt d'être un lointain souvenir. Alors je ne parle pas de pollution lumineuse, c'est la une du quotidien La Croix. La faute à qui cette nuit qui ne sera plus vraiment noire ? Eh bien au projet Starlink du milliardaire Elon Musk via sa société SpaceX. Starlink, c'est une méga constellation de petits satellites qui permettent ces petits satellites, de fournir un accès à Internet très rapide. Actuellement, ce projet est en phase de test avec 1800 satellites déjà en orbite à 400 km d'altitude. Il devrait en compter 42 000. Alors comme ça vous parle pas. Hein.
Un peu quand même, 42 000 satellites.
Ouais, depuis 57, 6 000 satellites seulement ont été lancés. Là, il est question d'en lancer 42.
Depuis 1957.
Oui.
Ah oui, quand même.
Alors, quel est le problème avec Starlink ? Eh bien, c'est d'abord la lumière qu'émettent ces satellites pour éviter que les composants brûlent à cause des rayons du soleil. Eh bien, ils réfléchissent la lumière, ce qui fait que ces petits satellites brillants, qui tournent les uns derrière les autres, deviennent visibles à l'œil nu. Bon, ça peut être joli.
Ça fait un petit effet étoile filante. C'est totalement artificiel.
Oui, mais pour les instruments scientifiques, messieurs, c'est nettement plus fâcheux car les satellites laissent des traînées de lumière rectiligne. Donc pour les télescopes, la nuit noire, même en plein désert, c'est terminé. Sauf que l'obscurité est nécessaire pour observer l'espace, pour par exemple détecter des astéroïdes qui traversent le ciel. Si une collision avec la Terre est exagérée, hein, bien sûr, il n'en est pas question. Le risque, en revanche, c'est que deux satellites se rentre dedans, on va avoir des milliers de débris au-dessus de notre tête. Forcément, il y en aura 42 000.
Il y
en aura encore plus. Et au-delà du matériel, le danger plane au-dessus de la Station Spatiale Internationale placée en orbite terrestre basse, comme les satellites Starlink. Imaginez la possible catastrophe en cas, là aussi, de collision. Alors aujourd'hui, l'espace est une zone de non-droit. En gros, à l'exception de quelques États, dont la France, chacun fait ce qu'il veut. Les nouveaux satellites d'Elon Musk, nouvelle source de pollution lumineuse, c'est dans La Croix.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est que ces petits satellites, ils sont petits. Ils ont la taille d'une boîte, boîte de chaussures.
Ouais.
Et malgré leur petite taille, lancée à 40 000 km/h, ça peut faire d'énormes dégâts.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez vu cette image.
C'est comme une balle de revolver.
Absolument. Ça va
balle de revolver.
Je ne sais pas si vous avez vu cette image sur la Station Spatiale Internationale d'un micro-impact. Ouais. C'est absolument impressionnant.
Donc imaginez la collision avec l'ISS.
Ça doit réveiller Thomas Pesquet.
Bon, voilà.
Oui, on espère que ça n'arrivera pas.
Il veille, il guette.
Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Ouais, direction le Japon ce matin, Omblin, Julien, en plein jeu paralympique, où les Français brillent. Hein, déjà 26 médailles à l'entame de la deuxième semaine de compétition. Mais pendant ces jeux, d'autres s'illustrent de manière beaucoup moins positive. C'est notamment le cas de Toyota, sponsor officiel de la compétition. La firme automobile fournit aussi les navettes pour les athlètes et les journalistes. Des navettes qui permettent tout simplement de se rendre sur les différents sites qui accueillent les compétitions et qui sont autonomes. C'est une grande première dans l'histoire. Elles sont autonomes. dans l'histoire des JO. Et sauf qu'une de ces navettes, qui s'appelle l'Hippalette, elle a renversé un athlète malvoyant.
Aïe. Ah mince.
Ouais, c'est un peu
gênant.
Ça
marche pas bien, l'autonomie, d'accord.
Visiblement, il y a un petit souci. Alors, il s'agit d'Aramitsu Kitazomo. Mm-hmm. Son nom ne vous dit sûrement rien, mais c'est un judoka japonais. Il a 30 ans. Et jeudi dernier, alors qu'il traverse un passage piéton à une intersection, Une hypalette le fauche. Le pilote, hein, qui peut normalement reprendre la main du véhicule si besoin, ne réagit pas, pensant que Karamitsu allait s'arrêter. Sauf que le malheureux judoka est malvoyant, donc il n'a pas vu la navette. Depuis, il est hospitalisé. Hein, il s'en tire, il a de la chance, avec des contusions aux bras et aux jambes. Mais il devait concourir ce week-end dans la catégorie des moins de 81 kilos. Il a évidemment dû déclarer forfait. Son rêve de jeu à domicile s'est évanoui. La marque automobile, de son côté, a présenté ses excuses. Hein, nous sommes vraiment désolés. Cela montre que les véhicules autonomes ne sont pas encore une option réaliste pour les routes normales, a expliqué le PDG du groupe Toyota.
Ah oui, depuis, c'est un gros aveu quand même.
Voilà. Depuis, toutes les hippalettes ont été renvoyées au garage. Ah retour mince, ouais. Du bon vieux car. De quoi remettre en question les prochaines expérimentations, notamment pour Paris 2024. Plusieurs projets de navettes autonomes ont déjà été lancés. Espérons qu'elles seront plus fiables que celles de Toyota. Un bus autonome Toyota renverse un athlète paralympique malvoyant. C'est à lire sur le site de Slate.
Et puis l'autre problème au-delà de l'autonomie, et c'est Fabrice Laffitte, notre réalisateur, qui vient de me le souffler, c'est que c'est un véhicule électrique, donc on n'entend pas. Et
tout à fait, oui,
c'est vrai. Donc, a fortiori, pour un malvoyant,
c'est très gênant.
C'est un peu gênant.
Merci beaucoup, Martin. Et on termine ce tour de table avec vous, Julien.
Alors, j'ai choisi un article qui, en ce jour de rentrée, va vous permettre de partir sur de bonnes bases, d'être efficace dès votre arrivée au travail et de tenir ce rythme là, au moins la moitié de la journée. Vous voyez de quoi je parle, Ombline ?
Du petit déjeuner ?
Oui, exactement. Mais quel est le petit déjeuner idéal, celui qui permet d'éviter les fringales d'avant le déjeuner? Eh bien, c'est la question qu'a posée le magazine Science et Avenir à des nutritionnistes. Et autant vous le dire tout de suite, notre petit déjeuner national, croissant, tartine et café serré, en prend pour son grade.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Alors le café, les amis, le meilleur ami de nos petits matins, eh bien, il ne faut pas le boire au saut du lit. Même après une mauvaise nuit de sommeil, ça fait davantage grimper la glycémie, sans compter le risque des brûlures d'estomac. Non, le café, ça se boit après le petit déjeuner, ou au pire pendant, histoire de tremper ses tartines dans le noir breuvage.
Donc on peut garder nos tartines.
Oui, mais tout dépend du pain. Ma chère Amine, évitez la baguette blanche ou le pain de mie à la glycémie élevée.
Non, il faut du pain complet.
Ce qui veut dire que votre taux de sucre dans le sang va augmenter rapidement pour redescendre aussi vite avec à la clé une fringale à 11h. Non, vous avez raison, préférez le pain complet, les flocons d'orge, d'avoine ou le porridge.
On peut pas se faire plaisir avec vous, en fait.
Non.
Attendez, vous allez voir. Alors, non seulement ça permet de tenir jusqu'au déjeuner, mais en plus, c'est plein de fibres, de vitamines et de minéraux. Les céréales complètes réduisent le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires ou de cancer colorectal. On ne peut malheureusement pas en dire autant. Des viennoiseries, croissants et pains au chocolat, ultra caloriques et peu rassasiantes, on les réserve pour le week-end.
Alors, qu'est-ce qu'on met sur nos tartines de pain complet? C'est
alors,
très bon,
c'est
le pain complet.
Bonne nouvelle, du beurre.
Ah bon,
on l'a longtemps pointé du doigt. Eh bien, il fait son retour par la grande porte car il apporte des vitamines F, A et D. La première est antioxydante, la deuxième est essentielle pour la vision et la troisième permet de solidifier les os. Une étude menée sur 640 000 personnes âgées de 44 à 71 ans a conclu à l'absence de lien entre le risque cardiovasculaire et une consommation modérée de beurre, ça veut dire pas plus de 14 grammes par jour.
Beaucoup,
alors, pour agrémenter vos tartines, n'hésitez pas à mettre des protéines comme du jambon blanc ou du fromage. Là aussi, ça permet de mieux tenir jusqu'au déjeuner. Et si vous préférez une touche sucrée, le miel et la confiture maison sont tout indiqués. Il faut juste faire attention à ne pas s'en mettre partout.
La confiture, ça dégouline, ça coule.
Merci Julien, vous l'avez trouvé où celle-ci là, c'est...
Les frères Jacques. Ça commence à dater.
Oui, un peu. Le pressing baisse son rideau pour aujourd'hui. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Les principaux titres de l'actualité de ce lundi 30 août. C'est le journal permanent avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La ville de la Nouvelle-Orléans, entièrement privée d'électricité à cause du passage de l'ouragan Ida en Louisiane, 16 ans après Katrina qui a fait plus de 1800 morts. Des roquettes ont volé au-dessus de Kaboul cette nuit. À la veille du départ prévu de l'armée américaine d'Afghanistan, les États-Unis procèdent à leurs dernières évacuations dans un climat extrêmement tendu. Et puis en France, le pass sanitaire devient aujourd'hui obligatoire pour tous les salariés d'entreprises qui reçoivent du public.
Merci Élise Dangean, prochain journal à 5h30 dans 9 minutes avec Christophe Lamarre.
Europe 1. Il est 5h21, l'heure de notre coup de projecteur quotidien, les initiatives en France. Chaque matin, on va au plus près de chez vous pour mettre en lumière ces petites actions qui font avancer le pays. Elles sont des associations, ce sont des élus, des entreprises. Et ce matin, Julien, eh bien, direction Lyon.
Lyon, où il est parfois très compliqué d'avoir une connexion Internet décente. Alors, pour pallier à ce problème, des habitants ont créé un fournisseur d'accès à Internet alternatif. Bonjour Bruno Spiekel.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes l'un des membres de la SCANI, acronyme de Société Coopérative d'Aménagement Numérique Iconèse. Que proposez-vous exactement aux habitants des zones blanches de votre région ?
Assez simplement, sur une constatation, il y a une dizaine d'années que Internet devenait à peu près aussi indispensable que l'eau ou l'électricité. On a essayé de trouver les moyens du bord avec ce qu'on pouvait pour amener des connexions aux, ce qu'on pourrait appeler les oubliés du numérique qui existent encore aujourd'hui, en exploitant uniquement des compétences locales et des moyens du bord. On a réussi à construire ce que des entreprises plus grosses ne parviennent pas à construire très localement.
Alors votre réseau, il fonctionne comment ?
Grosso modo, on a de la même façon que n'importe quel autre opérateur des infrastructures qui sont situées dans les grandes métropoles, donc à Paris et en France, qui nous permettent d'être au même niveau que n'importe quel autre opérateur d'un point de vue purement administratif et technique. Et puis, on utilise les moyens du bord pour amener ce réseau jusque là où ça fonctionne pas trop trop mal dans notre département. Et après, on utilise notre propre réseau qui aujourd'hui fonctionne beaucoup sur de la radio, mais qui mute petit à petit vers la fibre, pour l'amener jusque, si on prend l'exemple extrême, la petite ferme isolée en bas de la colline, qui n'a personne d'autre autour d'elle et qui n'intéresse personne aujourd'hui.
Ça veut dire que cette petite ferme isolée, qui n'intéresse personne, comme vous dites, elle a une antenne radio sur le toit, par exemple, qui lui permet de recevoir
aujourd'hui,
Internet ?
Aujourd'hui, elle a une antenne radio qui très simplement est pointée vers peut-être un centre-bourg un peu éloigné qui a une connexion qui fonctionne pas trop mal et qui, par ce moyen-là, permet d'avoir une connexion. Et demain, si le fermier, qui est très très bien équipé en engins divers et variés, va faire une tranchée et demain, nous mettrons la fibre dedans. On l'a déjà fait à quelques endroits dans le département ces 3 ou 4 dernières années et pourra rivaliser avec ce qu'on trouve à Paris intramuros aujourd'hui.
C'est un travail énorme, bénévole qui plus est.
C'est un travail énorme, ça fait 10 ans qu'on travaille le sujet dans le département. Ça va de 5 personnes qui s'activent quasiment quotidiennement à la trentaine qui font des choses à peu près une fois par mois sur le réseau, mais sur des missions très très diverses qui ne sont pas forcément techniques, qui sont d'aller discuter avec un élu ou monter dans un clocher avec une paire de jumelles pour regarder si une antenne verrait une autre antenne, ou aller vérifier que un château d'eau n'est pas trop vieux ou trop désuet pour qu'on puisse grimper dessus pour aller y installer du matériel, ou encore s'imaginer que la fibre traverse tel champ et trouver le propriétaire du champ pour lui demander si à l'occasion, lors d'un labourage, on pourrait faire une tranchée un peu plus profonde pour y installer une fibre. Oui.
Et ainsi étendre votre réseau. Vous avez combien d'adhérents, combien d'utilisateurs de votre service à l'heure actuelle ?
En termes de nombre de personnes, c'est compliqué parce qu'on a énormément de structures différentes. Ça va du simple particulier jusqu'au collège ou au lycée. Mais en termes de nombre d'inscrits officiellement qui ont une connexion, il y a 850 structures, majoritairement des particuliers, mais nous avons aussi des mairies, des centres de loisirs, des collèges, des écoles, des exploitations agricoles, des entreprises, des associations, des clubs d'aviron, par exemple.
Ah oui. Alors, on en parle régulièrement, certaines communes rurales perdent des habitants ou ont du mal à en attirer, faute justement d'avoir un réseau Internet suffisant. J'imagine qu'elles sont ravies que vous les reliez au reste du monde, ces communes.
Elles sont ravies. Alors, on a, pour la petite histoire, depuis une dizaine d'années, je crois, servi à conclure 5 ou 6 transactions immobilières, c'est-à-dire des gens qui ont entendu parler de nous et qui, avant de finir par signer leur maison, sont venus nous voir pour vérifier qu'on était en mesure de la connecter. Donc, effectivement, on travaille. Mais alors, c'est une des particularités qu'on a, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des élus, des entreprises ou des particuliers. Donc, nous avons tout un tas de secteurs où, effectivement, les élus ont été de la partie assez tôt et ont apporté des moyens, donc non pas financiers, c'est relativement faible, mais plutôt techniques et humains. Quelqu'un des services techniques, une nacelle ou des choses comme ça. Et puis, nous avons tout un tas d'autres secteurs aussi où, sans forcément être fâchés avec les élus, ils ne sont pas dans la partie et où on travaille quasiment uniquement avec des particuliers en installant notre réseau de maison en maison et d'endroit privé en endroit privé. Et on a eu aussi des cas où on a commencé comme ça, où les élus sont arrivés un petit peu après et ont permis d'aller encore un peu plus loin. Et ça se passe très très bien. C'est tout l'essence de la coopération qu'on entend nous. Vraiment, on prend les moyens du bord disponibles à l'instant T, on fait ce qu'on peut avec, et puis si demain il y en a plus, c'est très bien. Si demain il y en a moins, ça nous arrive aussi, et ben on se débrouille avec moins et on arrive à faire des choses.
En tout cas, vous venez combler un réel besoin. Merci beaucoup Bruno Spiekel d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir partagé cette belle initiative, la coopérative Scani, ce fournisseur d'accès à Internet alternatif dans l'Yonne. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Au revoir.
Europe 1. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you'd do this all the time. Tell me you love. Hold on to your time.
C'était Take My Breath, The Weeknd sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez, bonne reprise si vous rentrez de vacances. Nous sommes le lundi 30 août, c'est votre matinale info avec au programme dans la prochaine demi-heure, Julien.
La prescription culture de Margot Barallon qui nous fera découvrir une mini-série très réussie. Mais avant cela, dans une dizaine de minutes, votre interview, Omblin.
Ils apportent chaque jour une bouffée d'oxygène aux personnes chez qui ils interviennent. Les aides à domicile exercent un métier indispensable auprès des personnes âgées et handicapées, mais un métier difficile, en mal de reconnaissance, qui souffre d'une crise de vocation. On en parle à 5h40 avec le secrétaire général de la DMR, un réseau associatif de services à la personne.
Mais avant la météo, à 5h29 avec Anissa Haddadi. Un début de journée, Anissa, automnale sur la moitié nord.
Ouais, bah finalement, Julien, les journées se suivent et se ressemblent. Hein, j'ai l'impression de dire la même chose quand même depuis plusieurs jours maintenant. Donc ce matin, de la Normandie jusqu'au Jura, le ciel est très couvert. Un ciel chargé qui va lâcher pas mal d'averses fréquentes tout au long de la matinée, en particulier au nord et à l'est de la Seine. Donc si vous nous écoutez dans les Hauts-de-France, les Ardennes, la Franche-Comté ce matin, pour vous, c'est parapluie obligatoire. Dans l'après-midi, au nord de la Loire, on aura quand même un temps qui sera un petit peu plus lumineux avec quelques éclaircies. Mais attention, le long des frontières allemandes, hein, de l'Alsace jusqu'aux Alpes du Nord, encore pas mal d'averses. Sur la moitié sud, rien à signaler. Hein, c'est du grand et beau soleil pour tout le monde. Une journée estivale avec dans la vallée du Rhône encore un petit peu de mistral aujourd'hui. Et puis le long des côtes de la Manche, là aussi, le vent du nord qui souffle et qui baisse les températures. Alors 5 degrés à Montluçon ce matin, 8 au Puy-en-Velay, 12 à Carcassonne, 15 à Lille et Marseille, 16 à Paris, il fait bon sous les nuages. Et cet après-midi, on aura une bonne différence, 19 à 24 au nord, 25 à 29 sur la moitié sud.
Merci Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, il est 5h30.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
C'est abusé. Je me suis pas fait vacciner et je compte pas me faire vacciner. Je compte du coup forcément trouver un autre travail.
Cet employé que vous venez d'entendre, employé d'un grand centre commercial, préfère démissionner plutôt qu'adopter le pass sanitaire. Café, cinéma, salle de sport, il est obligatoire depuis ce matin dans tous les lieux accueillant du public. À 48 heures de leur retrait définitif, les Américains poursuivent leurs opérations d'exfiltration en Afghanistan. La capitale, Kaboul, sous tension, des tirs de roquettes ont eu lieu ce matin. Dans les Ardennes, les enquêteurs vont procéder aux ultimes fouilles pour tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin, victime présumée de Michel Fourniret. Puis un nouvel antidote contre le stress, pas de formule ou de pilule magique, mais un jeu vidéo qui promet de détendre les plus nerveux d'entre nous. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien. À leur tour de montrer patte blanche, près de 2 millions de salariés doivent se munir de leur passe sanitaire depuis ce matin. Seuls les lieux où il était déjà obligatoire pour le public et sont concernés. On parle des cafés, des musées, des cinémas et des centres commerciaux. Et la mesure est loin de faire l'unanimité parmi les employés. Reportage Yasmine Akatou.
À l'entrée de ce grand centre commercial, les QR codes de chaque client sont scannés avant d'accéder aux boutiques. Et ce matin, ce sera au tour de Mélissa, responsable en magasin de Montrer Patte Blanche, une démarche qu'elle approuve.
Personnellement, je trouve qu'il y a un côté assez rassurant dans le sens où on sait que les gens ont pris leur disposition. Ils sont testés ou ils sont vaccinés. Ça permet quand même de retrouver une ambiance un peu pré-Covid. C'est plutôt cool.
En face, dans un magasin de prêt-à-porter, Lina dénonce une obligation vaccinale dissimulée.
C'est abusé, je trouve. Je ne me suis pas fait vacciner et je ne compte pas me faire vacciner. Je compte du coup forcément, si j'ai plus de solution, trouver un autre travail où on ne m'imposera pas de ce pass sanitaire.
Mais certains, contraints financièrement à garder leur poste, ont décidé de se faire vacciner à contre-cœur. C'est le cas de David, serveur dans une brasserie parisienne. Il s'est organisé cet été pour avoir un pass sanitaire valide.
J'ai fait mon deuxième vaccin le 23 août. Du coup, mon passeport vaccinal sera complet au 30 août.
Et sans cette obligation, vous vous seriez fait vacciner ?
Je pense que j'aurais attendu. Ils auraient peut-être trouvé un traitement.
Dans ce restaurant, une serveuse délaissera son poste pour faire de l'administratif à l'écart des clients, le temps de recevoir sa deuxième dose.
Et pour contraindre les salariés récalcitrants, la loi a prévu tout un arsenal de sanctions progressives. Cela pourra aller jusqu'à la suspension sans rémunération, mais l'employeur ne pourra pas licencier un employé dont le pass sanitaire ne serait pas en règle. Sachez qu'à Paris, le syndicat Sud appelle les salariés des Galeries Lafayette à une grève illimitée pour protester justement contre la mise en place du pass. Et puis à la SNCF, le syndicat UNSA proteste lui aussi. Des trains pourraient être supprimés au dernier moment.
Aux États-Unis, on s'apprête à tourner une page douloureuse, celle d'un conflit de 20 ans qui se solde par une défaite. On parle bien sûr de l'Afghanistan.
Il reste encore 300 soldats américains sur place. Le dernier Marines quittera Kaboul demain soir. D'ici là, les dernières opérations d'évacuation vont se poursuivre tant bien que mal. De nouveaux tirs de roquettes ont été signalés ce matin sans que l'on sache qui en était l'auteur. Washington craint plus que jamais de nouveaux attentats. Le Pentagone affirme d'ailleurs avoir bombardé et détruit un véhicule chargé d'explosifs. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, en témoigne la frappe menée hier par l'armée américaine contre un véhicule dans Kaboul, une menace contre l'aéroport jugée imminente par le Pentagone, qui assure que des explosions secondaires ont eu lieu après cette frappe, preuve de la présence d'une quantité importante de matériel explosif dans ce véhicule. Selon le département d'État, il reste environ 300 Américains en attente d'évacuation. Les États-Unis semblent donc en mesure de respecter la date butoir du 31 août pour quitter définitivement l'Afghanistan, mais ce retrait ne marquera sans doute pas la fin des départs. Une centaine de pays, dont la France, ont reçu des garanties de la part des talibans. Ils laisseront partir les citoyens disposant d'une autorisation de voyager, même après le 31 août. Tout à l'heure, Washington réunira en visioconférence les ministres des Affaires étrangères de ses partenaires clés. Objectif, définir d'une approche commune avec les talibans pour les jours et les semaines à venir.
Et les Français et les Britanniques souhaitent de leur côté la création d'une zone de sécurité à Kaboul qui permettrait de poursuivre l'exfiltration de civils afghans. C'est ce qu'ils défendront aujourd'hui à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, proposition d'ores et déjà rejetée par l'un des porte-paroles des talibans.
Dans les Ardennes, les fouilles vont reprendre aujourd'hui pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
La fillette avait disparu à Guermantes en 2003 et Michel Fourniret avait très vite été soupçonné. Il a fini par avouer sa responsabilité 17 ans après, mais le tueur en série mort en mai dernier n'a jamais révélé le lieu où il avait caché le corps. Jusqu'à présent, les recherches menées sur les indications de son ex-épouse n'ont rien donné. Cette septième campagne va peut-être aboutir à quelque chose. C'est ce qu'espère maître Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, le père d'Estelle.
On est toujours depuis plusieurs fouilles dans la proximité de la maison de la sœur de Michel Fourniret, où celui-ci a déclaré avoir emmené Estelle, ce qui a été confirmé par Monique Olivier. Ce qui est important déjà, c'est qu'elle contribue encore aujourd'hui à l'enquête, malgré tout avec sa manière de fonctionner, c'est-à-dire en lâchant les informations par bribes et petit à petit. Bon, elle ne s'est pas fermée depuis la mort de Michel Fourniret, ce que nous craignions. On espère encore beaucoup, parce que pour la famille, retrouver le corps d'Estelle, c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu principal, plus que le procès, plus qu'un jugement, c'est pouvoir donner une sépulture à cette petite fille.
Maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin avec Gladys Laffitte.
On passe au foot. Il n'a pas marqué, mais il a réussi ses débuts avec Paris. C'est Messi, bien sûr.
Et oui, l'Argentin est entré en jeu à moins d'une demi-heure de la fin du match. Paris s'est imposé 2-0 finalement face à Reims en match de clôture de cette quatrième journée de Ligue 1. But signé Kylian Mbappé. Le PSG est en tête de la Ligue 1. Et puis en tennis, début de l'US Open sans Rafael Nadal ni Roger Federer, mais avec Novak Djokovic, le Serbe peut s'offrir un 21e titre en Grand Chelem et dépasser ses illustres rivaux.
Alors, il va devoir supporter la pression et le stress de la compétition, mais il en a l'habitude, Novak Djokovic. En revanche, pour ceux qui sont du genre tendu, une petite révolution, un jeu vidéo.
Oui, OA, c'est le nom de ce jeu vietnamien anti-stress, Julien, y jouer. C'est la garantie de pouvoir enfin se relâcher. Enfin, ça, c'est pour la promesse. Mais Clément Le Saffre, notre spécialiste jeux vidéo, l'a testé. Et vous savez quoi ? Il a été emballé.
En vietnamien, OA veut dire fleur et c'est effectivement en pleine nature que se déroule ce jeu de plateforme relaxant. On incarne une petite fée qui saute de branche en branche dans la forêt, une aventure quasi muette où le seul but est d'aller de l'avant, aidé par des coccinelles, des scarabées et autres animaux bienveillants. Ce qui frappe d'emblée, c'est la beauté d'OA. Avant d'être numérisé, les décors ont été intégralement peints à la main. Un joli parti pris qui rappelle les films du studio Ghibli et les chefs-d'œuvre de Miyazaki. Chaque niveau du jeu est un délice. Sontra est l'une des développeuses de OA chez Scrollcat Studio.
On a voulu que même la plus simple des plateformes soit spéciale. Donc on a fait de notre mieux pour recréer cette impression de la nature qui revit au printemps. Le but était de faire en sorte que juste sauter sur des feuilles soit agréable.
Autre idée surprenante, on ne peut pas mourir dans OA, il n'y a pas de point de vie et le jeu est très simple, on ne stresse donc jamais en jouant. Porté également par une musique envoûtante, ce plaidoyer ludique en faveur de la biodiversité est un excellent moyen d'absorber l'angoisse de la rentrée.
Voilà qui nous promet un peu de relaxation, sinon effectivement, Julien, il reste toujours la solution naturelle.
Bah oui. Avec ses chiens, c'est ce que je fais tous les jours. C'est le meilleur remède anti-stress. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, seulement 13 chevaux au départ de ce Quintet cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres. Et ma préférence ira à celles et ceux qui devront rendre la distance avec les numéros 13 Doux Parfum, idéalement engagé à la limite de la qualification, 10 Deux Ex Machina, dont les deux dernières victoires au Mans puis à Châteaubriand lui confèrent ici une réelle chance, 11 Freeman, de loin le meilleur du lot, mais absent depuis plus de 6 mois, et 12 Divine de Navarry, fiable et bonne troisième en dernier lieu d'un quintet similaire le 7 juillet à Enghien. Ensuite, je vous recommande Fillette Del Green, le numéro 7, jamais plus loin que 5e lors de ses 10 dernières courses, et Formi, le numéro 6, pour lequel son entraîneur Ludovic Pelletier n'a pas hésité à effectuer le déplacement depuis le centre-est avec de légitimes ambitions. Enfin, les numéros 3, El Paso de Cagne, et 4, Fareggio Menuet, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 13, 10, 11, 12, 7, 6, 3 et 4.
Et tous ces pronostics, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Vous restez avec nous dans un instant, mon interview actuelle avec le secrétaire général de l'ADMR pour parler des métiers d'aide à domicile dont les salaires vont bientôt être augmentés. Il était temps, à tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h41, très bon réveil à tous. Si vous venez de nous rejoindre, votre matinale se poursuit, Omblin, avec votre interview. Il joue un rôle indispensable dans le quotidien des personnes dépendantes et handicapées. Les auxiliaires de vie exercent un métier difficile et mal rémunéré. Aujourd'hui, le salaire d'un aide à domicile, c'est le SMIC, que ce soit en début de carrière ou après 10 ans d'ancienneté. Mais cela va changer. Dès le 1er octobre, les salaires pour les travailleurs en milieu associatif vont être augmentés de 13 à 15%. Et pour en parler, Omblin, votre invité, le secrétaire général de l'ADMR, Thierry Daboville.
Bonjour Thierry Daboville.
Bonjour.
Ce sont des aides-soignants, des auxiliaires de vie sociale, des agents à domicile. Ces personnes exerçant les métiers d'aide à domicile vont nous permettre de vieillir plus longtemps chez nous. La demande est grandissante. Qu'en est-il du recrutement aujourd'hui ? Quel est l'état des lieux ?
Alors c'est un secteur de l'aide à domicile qui est sous tension, de forte tension en termes de ressources humaines. Donc on a des problèmes de recrutement, ça c'est indéniable et depuis de nombreuses années.
Cette crise des vocations n'est pas récente.
Non, elle n'est pas récente, elle a été pointée par de nombreux rapports et nous-mêmes nous en avons fait bien évidemment le constat. C'est pour ça que notre secteur, notre branche associative a depuis 4 ans travaillé et négocié un accord avec les partenaires sociaux. Et cet accord, annoncé le 1er avril par Madame Bourguignon, va être mis en œuvre à compter du 1er octobre. Cet accord va permettre une revalorisation moyenne de près de 15% des rémunérations, mais offrira également de nouvelles perspectives de parcours professionnel aux salariés du domicile. Là aussi, c'était quelque chose qui était très, très attendu, que quand on rentre dans ce secteur, qu'on puisse faire un parcours professionnel, faire une carrière dans ce secteur.
Le métier des aides à domicile a été particulièrement mis en lumière pendant la crise sanitaire. Quel impact la crise a-t-elle eu sur ce secteur en particulier ?
Si vous voulez, cette crise sanitaire, en effet, comme vous le dites, elle a mis en lumière le rôle essentiel et l'engagement exceptionnel des salariés d'aide à domicile. Et je crois qu'elle a été un révélateur. L'ensemble des Français ont reconnu cet engagement de ces salariés d'aide à domicile. Hein. Et comme je le dis souvent, s'ils n'avaient pas été là, la crise aurait été plus terrible encore. Le gouvernement a pris conscience, ainsi que l'ensemble des départements, qu'il y avait une nécessité de revaloriser, et cela très rapidement, l'ensemble des salariés de ce secteur.
Les salaires des personnels hospitaliers et des EHPAD ont été revalorisés. De nombreux aides à domicile se sont tournés vers ces structures. Est-ce que vous espérez observer cette même dynamique dans votre secteur ?
Oui, nous espérons avoir cette même dynamique. Pour prendre un exemple, un aide-soignant qui est nouvellement embauché, aujourd'hui gagne 1628 euros. Il pourrait gagner, à partir du 1er octobre, 1952 euros. Donc c'est une hausse de salaire de 324 euros. Donc vous voyez, c'est non négligeable et qui nous remet, si vous voulez, dans une certaine équité logique par rapport aux revalorisations qui étaient faites dans le cadre du Ségur de la santé.
Avec une population vieillissante, hein, bien sûr, le métier d'aide à domicile pour les personnes âgées semble être celui qui pourrait créer le plus de postes les années à venir. Comment le rendre plus attractif ? Bien sûr, ça passe par le porte-monnaie, évidemment. Mais comment le rendre plus attractif auprès des jeunes qui arrivent sur le marché du travail ?
Je crois que ces métiers sont assez méconnus, finalement. Donc, nous menons, et avec les autres acteurs de la branche associative, des campagnes de communication pour faire connaître ces métiers, qui sont très larges. Vous l'avez dit, il y a des aides à domicile, on peut avoir des aides-soignants, nous avons des infirmiers, des infirmières. Le secteur et les métiers sont très larges. Donc ça, je pense qu'il nous faut faire encore plus de communication. Ensuite, il y a la question, bien sûr, de la rémunération. Et cet accord qui va se mettre en place le 1er octobre va y participer. Et puis ensuite, expliquer ce métier, c'est bien évidemment des prestations techniques. Du lever, des toilettes, des repas, du coucher, mais c'est aussi des métiers du lien social, extrêmement important. Aujourd'hui, les personnes que nous visitons souvent ont peu de relations avec d'autres personnes, et ces métiers sont des métiers de l'humain, du lien social, et c'est souvent, enfin c'est même toujours très enrichissant aussi pour les salariés de participer à cette vie sociale.
Il faut expliquer, il faut aussi combattre les clichés et préciser que c'est un métier d'homme également.
Mais bien sûr, c'est vrai que ces métiers, c'est beaucoup de femmes. Hein. On ne va pas le dire le contraire, dans notre secteur, c'est environ 93% de femmes. Mais nous avons des hommes, des aides à domicile, des auxiliaires de vie sociale. Et souvent, ce sont ces hommes sont extrêmement appréciés chez les personnes chez qui ils interviennent. Donc oui, il y a tout à fait possibilité pour un homme, et bien au contraire, de faire un parcours au sein de nos associations locales ou départementales.
De créer des nouvelles vocations et des carrières. Merci beaucoup Thierry Daboville d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ADMR.
Je vous remercie aussi.
5h47 sur Europe 1. Courage à vous si vous partez déjà au travail. On vous accompagne avec notre prescription culture.
Oui, c'est une série que va nous conseiller Margot Barallon. Bonjour Margot.
Bonjour.
Vous avez trouvé une petite pépite sur Netflix.
Oui, c'est pas toujours facile de trouver son bonheur dans la jungle du catalogue de la plateforme. Eh bien, faites-moi confiance et allez voir The Chair, c'est La Directrice en français. C'est une mini-série en 6 épisodes.
Et ça raconte quoi, The Chair ?
Alors, je vous emmène aux États-Unis, à l'université de Pembroke. Il faut imaginer hein, l'université anglo-saxonne à l'ancienne, des vieux tableaux, des blasons bizarres, des meubles en acajou. Et alors au début de l'histoire, Ji-Yoon Kim, une brillante professeure d'origine coréenne, prend la tête du département de littérature anglaise. Très beau poste, sauf qu'elle doit rapidement faire face aux craintes de son équipe.
Ils ont déménagé mon bureau au sous-sol, sous le gymnase.
Quoi ?
Tous mes livres, mes affaires, mes tiroirs.
Mais pourquoi feraient-ils ça ?
Il y a une rumeur. Ils veulent obliger toutes les personnes de plus de 55 ans à prendre une retraite anticipée.
Oh non, oui, c'est le début de la fin. Okay,
s'il vous plaît, évitons de paniquer.
Facile à dire quand on a 51 ans.
J'en ai 46.
Non, sans rire.
Et la rumeur est fondée. Oui, le doyen de l'université espère effectivement pousser les profs âgés vers la sortie pour faire des économies. Et évidemment, je vous le donne en mille, c'est à Ji-Yoon qu'il va demander de faire le sale boulot.
Ça rappelle, Margot, ses films et ses séries sur l'impitoyable monde du travail, mais cette fois, c'est à l'université.
Exactement. Et la série pose d'ailleurs la question, est-ce que le système éducatif doit obéir aux mêmes logiques économiques ? Le tout avec beaucoup d'humour, je vous rassure, donc ça n'a rien d'une thèse moraliste. Finalement, cette université, c'est avant tout un décor, un prétexte pour parler d'autre chose, parler du monde qui change. Ça se voit par exemple dans les attentes des élèves, la façon d'enseigner aussi, avec des anciens professeurs qui sont plutôt traditionnels et des jeunes qui tentent d'autres méthodes.
Je leur ai dit de tweeter leur phrase préférée de Moby Dick.
Tweeter ?
Au semestre dernier, appelle-moi Ismaël, était à égalité avec Du cœur de l'enfer, je te poignarde.
Non, 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 je veux qu'ils soient comme absorbés par l'histoire, par la beauté du phrasé. Je veux dire, si tout ce qu'ils font, c'est chercher l'extrait le plus tape à l'œil...
C'est rien qu'un exercice.
C'est le choix de la facilité.
C'est une façon de se connecter avec eux. Et je trouve que ça mobilise des compétences de lecture attentive.
C'est un peu, si vous voulez, la querelle des anciens et des modernes, mais en 2021.
Bon, mais la série prend parti pour qui, finalement, Margot ? Les anciens ou les modernes ?
Ah mais pour personne, et c'est bien pour ça qu'elle est très réussie, c'est une série extrêmement délicate qui montre à quel point c'est difficile pour tout le monde qui change, évidemment pour l'arrière-garde des professeurs, mais pour Ji-Yoon aussi finalement. Elle, c'est une quadragénaire, mère célibataire, qui se débat entre sa fille et ses obligations professionnelles. On en attend énormément d'elle, parce que c'est la première femme à ce poste, en plus issue de l'immigration. Alors, certes, tout ça est très sérieux, mais c'est pas pour ça qu'on s'amuse pas. La série est tout en légèreté, un humour un peu grinçant parfois, mais elle garde surtout une immense tendresse pour tous ses personnages et c'est bien là l'essentiel.
Oui, effectivement. Merci beaucoup Margot Barallon pour cette très bonne idée série. Ça s'appelle donc The Chair, comprenez la directrice, et c'est sur Netflix.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal permanent à 5h50, l'essentiel de l'actualité de ce lundi matin avec Élise Dangean à la une, Élise.
Ouvrir des discussions avec les talibans n'implique pas une reconnaissance ultérieure de leur gouvernement, c'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron hier chez nos confrères de TF1, le président français qui a posé plusieurs conditions, dont le respect des droits de l'homme et de la dignité des femmes afghanes. La ville de la Nouvelle-Orléans, complètement privée d'électricité depuis le passage de l'ouragan Ida en Louisiane, 16 ans après Katrina qui a fait plus de 1800 morts. Une bonne nouvelle sur le front de l'épidémie en France, la pression sur l'hôpital n'augmente plus en métropole. Les indicateurs se stabilisent depuis plusieurs jours, sauf aux Antilles. Et puis c'est aujourd'hui que la limitation de vitesse à 30 km/h est étendue à tout Paris. Cela concernait déjà 60% des routes parisiennes. Enfin, c'est une légende du reggae jamaïcain qui disparaît. Le producteur, compositeur et chanteur Lee Perry s'est éteint hier à l'âge de 85 ans. C'est lui qui a permis à Bob Marley d'exploser.
Merci beaucoup Élise Dangean. Prochain journal complet dans 9 minutes avec Roman Hockey.
Europe Matin.
Il est 5h51 sur Europe 1. C'est en France. C'est notre grande boucle de l'actu. On feuillette chaque matin tous vos quotidiens régionaux pour sélectionner une histoire, un reportage marquant. Et on appelle le ou la journaliste qui a écrit cet article, direction Calais ce matin, Julien.
Bonjour Amélie Soiran.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au journal Nord Littoral et vous signez ce matin un dossier passionnant sur une technologie développée par une société basée à Grande-Synthe, technologie pour laver les fumées des ferries, c'est le titre de l'article. Expliquez-nous comment fonctionne ce système.
Alors oui, c'est la société TerraOtherm a développé une technologie qui permet de purifier l'air tout en récupérant de l'énergie, et ça peut aussi servir à récupérer la fumée d'usine ou de navire, même si ça n'a pas encore été fait, mais c'est en cours de développement, grâce à un système finalement assez simple, c'est-à-dire que l'air est récupéré par exemple dans un entrepôt où la fumée récupérée des bateaux, elle est barbotée dans l'eau. C'est-à-dire que toute la suie, tous les polluants passent dans l'eau qui, elle, est ensuite filtrée et l'air ressort propre.
Et il y a aussi, vous l'avez dit, des économies d'énergie à la clé.
Oui, dans cet échangeur TerraO, ça permet de récupérer la chaleur de l'air ambiant ou, par exemple, des fumées. Donc, ça permet de faire des économies d'énergie puisqu'ensuite, on peut, par exemple, utiliser cette énergie pour chauffer un bâtiment ou comme une piscine, notamment. C'est un système qui a été installé à la piscine de Loos, près de Lille. grâce à l'air qui est filtré, ça permet de chauffer une partie des bassins.
Ouais, jusqu'à 20 à 30% d'économie d'énergie, peut-on lire dans votre article. Alors, cette technologie, elle a été inventée en 2012 et on découvre qu'elle a déjà été installée notamment dans le métro de Séoul en Corée du Sud. Et la prochaine étape maintenant, bah, c'est un ferry.
Alors, ce n'est pas tout à fait un ferry et c'est encore en projet. En fait, il y a une compagnie qui s'est créée il y a quelques mois à Calais. Elle s'appelle, c'est la compagnie Blue Channel Line qui veut, avec un navire, relier Calais à Sheerness en Angleterre. Et donc, elle va faire son lancement commercial à partir du mois d'octobre. Et si ça fonctionne bien, elle voudrait installer cet échangeur, ce TeraO, sur son bateau pour traiter toutes les fumées. C'est encore en cours d'élaboration, hein. Ce sera la première fois que ce dispositif sera posé sur un bateau.
Alors, les compagnies ont conscience d'être de gros pollueurs. Il y a d'ailleurs plein de projets pour rendre les ferries plus verts, hein.
Oui, les compagnies maritimes sont obligées de s'y mettre. Donc, il y a pas mal de prototypes. À Calais, en 2023, il y aura deux nouveaux ferries de la compagnie Piano qui vont arriver. Donc, eux qui seront hybrides, hein, qui utiliseront toujours du carburant, du fuel, mais qui utiliseront aussi l'électricité. Mais il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses en réflexion pour essayer de réduire la pollution des ferries, notamment en utilisant de l'hydrogène, de l'ammoniac, du méthanol. Tout ça est en projet. Notamment des projets de la compagnie Blue Channel Line, c'est vraiment sur le plus long terme de mettre en place un dispositif pour utiliser la force du vent.
Oui, des voiles sur des ferries, mais ce sera à l'horizon 2020 et des brouettes. Alors, pour revenir à cette technologie qui permet de dépolluer l'air, vous êtes allé, je crois, à la rencontre du tout premier client calaisien de cette entreprise, TeraOterm, et il est ravi.
Oui, c'est la société ML de Calais qui avait besoin, pour un de ses clients, d'avoir un entrepôt qui restait avec moins de 60% d'humidité et une température entre 15 et 25%. Donc le dirigeant a d'abord cherché un peu des méthodes traditionnelles pour atteindre ses objectifs et en faisant des économies sur sa facture de chauffage.
Merci beaucoup Amélie Soiran d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir raconté votre dossier à lire aujourd'hui dans Nord Littoral. Dossier passionnant sur cette technologie qui va permettre peut-être à l'avenir de dépolluer les fumées des ferries. Très belle journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Bonne journée, au revoir.
Reconnaissable avec sa fine moustache, Arthur Teboul, à la tête de son groupe Feu Chatterton, c'est un monde nouveau sur Europe 1.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Amour. Si on prie, fait cerner l'évidence, était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Que savions-nous faire de nos mains? Presque rien.
se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, ça vaut le poids. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras.
Un monde nouveau sur Europe 1, le tube extrait du troisième album du groupe parisien Feu Chatterton qui sera à l'affiche de l'Olympia le 29 novembre prochain.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h58, bon réveil à tous, à suivre sur Europe 1 votre interview actu, Julien, à 6h10.
Levez le pied si vous roulez ce matin à Paris, toutes les rues ou presque sont depuis aujourd'hui limitées à 30 km/h, décision dont l'objectif est très clair, dissuader les automobilistes de prendre leur voiture, sauf que ce n'est pas si simple, surtout si on habite en banlieue. On en parlera avec le spécialiste des transports Gilles Dansart. Et puis juste après, à 6h20, Omblin, votre partition.
Il excelle dans l'exercice de l'équilibriste sur des samples savamment choisis, jongle avec les mots, dompte les allitérations.
Prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique.
La partition de MC Solar, le premier album qui sème le vent récolte le tempo, sorti en 1991.
Qui sème le vent, récolte le tempo ou tout simplement le mauvais temps, enfin surtout sur la moitié nord, si j'ai bien compris, Anissa Dadi.
Comme d'habitude, oui, effectivement, ça se poursuit. Si vous voulez faire une partition, Blin, hein, je
oui,
suis
sur
dispo.
La météo.
Alors sur la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, nous avons un ciel effectivement très couvert ce matin avec quelques averses qui traînent, des averses qui sont très localisées, pourrait y en avoir aussi sur la région parisienne. Sur toutes ces régions, le ciel, bonne nouvelle quand même, va s'éclaircir dans l'après-midi, mais enfin attention, on n'aura pas... On ne va pas être aveuglé par le soleil. Ce sont de petites percées du soleil, des petites éclaircies le long des frontières de l'Est. Là, les averses sont fréquentes. Le long des côtes de la Manche, nous avons le vent du nord qui souffle cet après-midi. Sur la moitié sud, rien à signaler. Un léger mistral dans la vallée du Rhône. Mais partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil. Attention tout de même en montagne, sur les Pyrénées, les reliefs corses et les Alpes. C'est là que les nuages seront les plus présents et vont vous apporter quelques gouttes. Les températures 20 degrés à Cherbourg, 21 à Brest et Lille, 23 à Paris et à Reims. 26 à Bordeaux, 28 pour Marseille et 29 la maximale pour Nîmes.
Merci Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Nous avons initié un dialogue avec les talibans. Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance.
Négocier et sécuriser, c'est la ligne d'Emmanuel Macron qui espère encore procéder à des évacuations en Afghanistan. La France plaide pour la création d'une zone sécurisée à Kaboul. Le pass sanitaire en entreprise, il est obligatoire à partir d'aujourd'hui. 1 800 000 salariés sont concernés. Dans les Ardennes, le début d'une 7e campagne de fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Un dernier espoir, 18 ans après la disparition de la fillette. Et puis à la fin de ce journal, direction Marseille, où les vacanciers ont quitté ce week-end le sable chaud et l'air iodé, cap sur la rentrée. Et le, journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. La France plaide pour une zone sécurisée à Kaboul en Afghanistan. Un espace protégé qui permettrait de poursuivre les opérations humanitaires. Cette proposition doit être étudiée par le Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Les talibans, eux, auraient d'ores et déjà rejeté cette option.
À 48 heures du départ des forces américaines, des milliers d'Afghans doivent encore être évacués. Une estimation donnée par Emmanuel Macron dans le journal du dimanche. Et le chef de l'État reconnaît que pour ce faire, il va falloir entamer des négociations avec le nouveau pouvoir taliban en place.
Je ne connais pas les talibans qui ont pris le pouvoir militairement. Et je ne peux donc absolument rien vous dire aujourd'hui sur eux. Ce que je sais, c'est que nous allons tout faire pour obtenir des résultats et protéger des vies. Et soyons lucides, aujourd'hui, ceux qui ont le contrôle de Kaboul et du territoire, ce sont les talibans. Et donc, de manière opérationnelle, très pratique, nous devons avoir ces discussions. Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance, parce que nous avons posé des conditions. La première chose, c'est que les talibans respectent le droit humanitaire, le droit d'être protégé par l'asile. La deuxième chose, c'est qu'ils soient très clairs à l'égard de tous les mouvements terroristes. S'ils pactisent avec les mouvements terroristes, évidemment, ce sera inacceptable pour nous tous. La troisième chose, c'est le respect des droits de l'homme, en particulier du respect de la dignité des femmes afghanes. Et donc l'objectif est en effet d'obtenir les évacuations humanitaires de toutes les femmes et les hommes qui courent un risque. Est-ce que nous y arriverons ? Je ne peux pas vous le garantir.
Emmanuel Macron sur TF1 hier soir et on entend la prudence du chef de l'État. Plusieurs tirs de roquettes ont d'ailleurs été entendus ce matin à Kaboul. Les cibles n'ont pas encore été identifiées.
Une situation tendue alors que 300 Américains doivent encore quitter l'Afghanistan, indique la Maison Blanche. Les États-Unis se retireront du pays dans 48 heures.
Les États-Unis où la ville de la Nouvelle-Orléans, 400 000 habitants, est entièrement privée d'électricité ce matin. Une panne générale à cause du passage de l'ouragan Ida en Louisiane. Il est passé en catégorie 3 en début de soirée, la même catégorie que Katrina qui avait dévasté la région en 2005.
6h03 sur Europe 1, la suite de votre journal, Romain Oquet.
Être vacciné ou avoir été testé, c'est désormais la condition pour 1 800 000 travailleurs. Dès aujourd'hui, le pass sanitaire est obligatoire pour les salariés au contact avec le public, comme dans les restaurants, les musées ou les grands centres commerciaux.
Des QR codes qu'il va donc falloir contrôler et certaines entreprises font donc appel à des sociétés de sécurité privée, sociétés qui ont beaucoup de mal à faire face à la demande. C'est ce qu'explique Claude Tarlet, président de la Fédération française de sécurité privée.
Nous sortons de cette période estivale. Beaucoup des femmes et des hommes qui travaillent dans nos entreprises n'étaient pas disponibles. Les centres de formation ne sont pas encore ouverts pour notamment permettre de préparer les effectifs dont nous avons besoin. Je rappelle que nous ne pouvons pas mettre sur le terrain n'importe qui dans n'importe quelles conditions. Ils doivent être agréés par le Conseil national des activités privées de sécurité, c'est-à-dire disposer d'une carte professionnelle qui repose, un, sur le contrôle de la moralité, deux, sur le contrôle de la compétence. Donc il y a une tension, mais certains de nos confrères hésitent avant de répondre favorablement lorsqu'ils ne sont pas certains de disposer de compétences qui sont formées, préparées, qualifiées pour faire face à ce type de situation.
Claude Tarlet, président de la Fédération française de sécurité privée, joint par Olivier Samin.
Un pass sanitaire obligatoire qui concerne aussi les salariés des Galeries Lafayette à Paris. Un préavis de grève illimité a été déposé par les syndicats.
Paris, où les automobilistes vont devoir lever le pied ce matin. Dès aujourd'hui, la vitesse est désormais limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité des rues de la capitale. Alors, deux exceptions, les Champs-Élysées et le boulevard des Maréchaux qui resteront à 50 km/h.
Mais aussi le périphérique à 70 km/h. Dans l'actualité judiciaire, le début de nouvelles recherches pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
Des fouilles qui vont durer toute la semaine à Issancourt et Rumel dans les Ardennes. Estelle Mouzin a été enlevée et tuée par le tueur en série Michel Fourniret. Gladys Laffitte, c'est la 7e et peut-être la dernière campagne de fouilles pour retrouver la fillette disparue en 2003 à l'âge de 9 ans.
Oui, et ces fouilles vont se dérouler en présence de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret. C'est elle qui a donné des indications aux enquêteurs sur le lieu où le tueur aurait enterré Estelle, un bois communal à quelques kilomètres de la maison où il aurait séquestré la petite fille. Maître Didier Seban est l'avocat d'Éric Mouzin.
Ce qui est important déjà, c'est qu'elle contribue encore aujourd'hui à l'enquête, malgré tout avec sa manière de fonctionner, c'est-à-dire en lâchant les informations par bribes et petit à petit. Bon, elle ne s'est pas fermée depuis la mort de Michel Fourniret, ce que nous craignions. On espère encore beaucoup, parce que pour la famille, retrouver le corps d'Estelle, c'est vraiment l'enjeu.
Ce bois a déjà été fouillé deux fois, en avril et en juin. Et selon les déclarations de Monique Olivier, à l'époque, elle y aurait accompagné Michel Fourniret, puis l'aurait laissé enfouir le corps d'Estelle. Cette fois-ci, les enquêteurs espèrent qu'elle pourra donner des indications plus précises. Le tueur en série étant mort au mois de mai dernier à 79 ans, elle est aujourd'hui la seule à détenir des informations qui pourraient permettre qu'enfin le corps d'Estelle Mouzin soit retrouvé 18 ans après sa disparition.
Les précisions de Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Faut-il, oui ou non, une primaire à droite? C'est la question qui sera posée dès aujourd'hui à 15 000 électeurs du parti Les Républicains.
Une consultation qui doit permettre de départager les différents candidats. Certains étaient d'ailleurs réunis à La Baule samedi. Une rentrée politique où plusieurs élus ont insisté sur la nécessité d'une candidature unique.
La droite divisée et la gauche dispersée aussi pour sa rentrée politique. Le Parti communiste était à Aix-en-Provence, la France insoumise dans la Drôme, l'île socialiste dans le Loir-et-Cher.
Et pour l'instant, à gauche, à 8 mois de l'élection présidentielle, aucun candidat ne s'impose. C'est l'analyse de Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP.
Les enquêtes d'opinion montrent une gauche divisée avec un total d'intention de vote jamais vu à un niveau si bas, entre 20 et 25%. C'est le plancher sous la Ve République avant une élection présidentielle. Et paradoxalement, dans les enquêtes de l'IFOP, on voit que les préoccupations des Français peuvent coller avec un discours programmatique de gauche sur les questions de santé, la première préoccupation des Français. Donc la gauche a peut-être un coup à jouer si elle arrive à prendre en charge ces différentes thématiques et proposer une offre alternative à Emmanuel Macron. Dans ce cadre-là, son morcellement pénalise l'offre Mélenchon, l'offre Fabien Roussel qui connaît dans les enquêtes de l'IFOP une petite dynamique, le PS avec sans doute Anne Hidalgo, les attentes concernant la primaire Europe Écologie Les Verts. Là, cette dispersion des forces de gauche est particulièrement dévastatrice dans un contexte où le potentiel électoral de la gauche n'a jamais été aussi bas.
L'analyse de Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, au micro européen de Marion Gauthier.
Et puis après la rentrée politique, la rentrée scolaire, le décompte a commencé puisque c'est jeudi, dans 4 jours, pour 12 400 000 élèves qui terminent donc leurs vacances.
Retour au train-train quotidien pour ces vacanciers qui ont profité de la douceur marseillaise. Le reportage à la gare Saint-Charles de Stéphane Burgat.
Adieu, sable chaud, Paris, Dijon, Tourcoing. Les trains au départ sont remplis d'ex-vacanciers parfois boudeurs.
On repart, c'est la fin des vacances, donc c'est toujours embêtant, toujours chiant, quoi. On est toujours un peu dégoûté. On est mis en vacances quand même, hein. Ça c'est clair.
Bronzé et les bras chargés, c'est dans l'ensemble l'impression d'avoir bien profité de l'été qui domine.
Ah oui, on a profité, oui. On était au Delta Festival, au festival de musique.
Au final, on revient plus fatigué que quand on est parti, mais c'est pas grave.
Parfois même un petit peu trop, et ce matin, la reprise sera dure pour certains.
Ah là, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Bah, il faut qu'ils récupèrent tous les neurones voilà, que j'ai perdu pendant les vacances, tu vois. Ouais, trop la fête jusqu'à 5h du matin, hein. Trop. Et au moins, on a bien profité.
Mais pour beaucoup, eh bien, le retour au travail ou aux études se fait dans de bonnes dispositions.
Motivé, ça me pose pas de problème. J'ai fait les calanques, beaucoup la fête, j'ai bien mangé et je me suis reposé. Plein d'étoiles dans les yeux et plein d'énergie.
Et c'est sans doute à ça que l'on reconnaît des vacances réussies. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Voilà, et on souhaite bon courage à tous ceux qui reprennent le travail ce matin.
Effectivement, bon courage à vous. C'était le journal de Roman Hockey. Merci Roman.
On passe au sport sur Europe 1.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec vous, Martin Lange. Et on commence avec une première. Lionel Messi a officiellement fait ses débuts en Ligue 1 hier soir.
Oui. 26 petites minutes hier soir au stade Auguste Delaune, hein, lors du match Reims-PSG, vous entendez l'ambiance. Alors pas de but, pas de geste de classe, mais une victoire 2-0, hein, et une présence qui rassure déjà ses partenaires. Écoutez l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Desde que entró, ya los primeros toques que hizo le dio seguridad al equipo.
Dès son entrée en jeu, dès les premiers touchés de balle, on a vu qu'il a apporté de la sérénité à l'équipe. Je suis content qu'il débute. C'est bien pour lui avec cette victoire. Je l'ai senti très bien. Et c'est bien qu'il puisse tout de suite apporter son aide à l'équipe. Voilà, c'est clair, c'est Messi. Donc tout le monde est motivé par lui. Son histoire, son énergie, sa personnalité, tout ça inspire les autres. Et puis il y a cette joie, cet enthousiasme qui sont contagieux. Et puis son adaptation s'est très bien passé, sa vie avec les autres joueurs, voilà, tout ça bénéficie déjà à l'équipe.
Le coach du PSG, hein, au micro européen de Simon Rubin. Et si Messi n'a pas marqué, hein, c'est Kylian Mbappé qui s'en est chargé. L'international tricolore, toujours courtisé par le Real Madrid, a inscrit les deux buts qui ont offert la victoire aux Parisiens. Le PSG qui continue son sans faute. Hein, 4 matchs, 4 victoires et déjà le fauteuil de leader.
Dans les autres matchs de la journée, Martin.
Eh bien, les outsiders, hein, se réveillent. Première victoire de la saison pour le champion de France Lille, hein, 2-1 contre Montpellier. Premier succès également pour Monaco à 3. Et puis Angers, hein, qui continue de surprendre. Victoire contre Rennes 2-0. Les Angevins sont dauphins du Paris Saint-Germain devant Clermont. Au fond de la classe, hein, Brest, Bordeaux et surtout Troyes ne décollent pas.
Dans le reste de l'actualité sportive.
Eh bien, le Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps perturbé par la pluie. Victoire de Max Verstappen sans disputer un mètre de course et grosse polémique dans le paddock.
Hein. Ça.
Le Néerlandais revient tout de même à 3 points de Lewis Hamilton au classement du championnat du monde. Lui peut voir venir, hein, le motard Fabio Quartararo remporte son 5e Grand Prix de la saison à Silverstone avec 65 points d'avance sur son dauphin, l'Espagnol Mir. Le pilote français prend une belle option pour le titre qui serait le tout premier pour un Français en MotoGP. En volée, l'équipe de France féminine continue de surprendre. Une victoire contre la Croatie hier et qualification en quart de finale de l'Euro. Une première depuis 8 ans. Décidément, les sports collectifs français surfent sur la réussite des Jeux de Tokyo. Et puis enfin, c'est le début aujourd'hui de l'US Open. Premier coup de raquette à 17h. Djokovic fait figure d'immense favori en l'absence de Nadal et Federer. Le Serbe pourrait réussir un incroyable exploit en remportant son 4e tournoi du Grand Chelem de l'année, une performance plus réalisée depuis Rod Laver et la fin des années 60.
C'était le journal des sports signé Martin Lange. Merci Martin.
6h12 sur Europe 1, restez avec nous dans un instant. On va décortiquer la nouvelle mesure dissuasive de la mairie de Paris, la capitale où, depuis ce matin, la quasi-totalité des rues est passée de 50 à 30 km/h. Les Parisiens applaudissent, les banlieusards beaucoup moins. On en parle juste après la pause avec le spécialiste des transports, Gilles Dansart. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h15, merci d'être avec nous. La matinale se poursuit sur Europe 1 avec votre interview Actu. Julien, depuis ce matin, fini les 50 km/h dans la quasi-totalité des rues de Paris. La limitation de vitesse désormais, c'est 30 km/h. Décision de la mairie qui est loin de faire l'unanimité. Pour en parler, Julien, vous recevez Gilles Dansart, directeur de Mobilettre et grand spécialiste des transports.
Bonjour Gilles Dansart.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à comprendre l'impact que va avoir ce passage aux 30 km/h à Paris. Déjà, est-ce que vous y êtes favorable sur le principe ?
C'est difficile d'être favorable à une mesure qui est en tout point inédite. On comprend l'objectif des autorités qui veulent réduire la circulation automobile, le bruit, la dangerosité, mais il n'y a absolument aucune assurance sur le résultat. Donc, avant d'être favorable, il va bien falloir voir assez vite ce que donne cette mesure dans des conditions réelles.
Alors, j'ai traversé justement hier Paris à 30 km/h pour essayer. C'est très compliqué de maintenir sa vitesse aussi basse. Une légère pression sur la pédale d'accélérateur et vous êtes à 40 km/h. Sans oublier qu'on est constamment en train de changer de rapport.
Il est très clair que c'est une mesure de type dissuasif. On voit dans l'ensemble des grandes villes mondiales que pour réduire la circulation automobile, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est la contrainte financière, le péage urbain comme à Stockholm ou le prix du stationnement, soit la réduction de la place sur la voirie, concrètement, accordée à l'automobile. Là, la mairie de Paris et d'autres villes françaises expérimentent une nouvelle stratégie qui est de dissuader justement par une vitesse très élevée de façon à ce que les automobilistes se disent « bon, à 30 km/h, ça vaut plus le coup de prendre ma voiture ». Donc effectivement, ça a des conséquences sur la façon de conduire, notamment pour la majorité des véhicules qui sont à boîte de vitesse mécanique et pas automatique. Et donc, on ne peut pas nier que ça a des conséquences sur l'automobiliste.
Est-ce que, Gilles Dansart, rouler à 30 au lieu de 50 permet de réellement réduire la pollution que rejette le véhicule ? Je vous pose cette question parce qu'on lit dans la presse des scientifiques qui affirment qu'au contraire, ça pollue davantage.
Il y a effectivement une étude d'un centre qui dépend de l'État, le CEREMA, qui dit que ça pollue peut-être un peu plus à 30 qu'à 50. Mais l'objectif des autorités municipales n'est pas simplement de réduire la pollution par une réduction du dégagement pour chaque véhicule, c'est de réduire la pollution par la réduction du trafic global. Et donc, on ne peut pas réduire l'étude juste au dégagement pour chaque véhicule. C'est une politique plus globale. Et j'ajoute à cela qu'il y a aussi comme objectif de réduire le bruit et la dangerosité. Donc, la polémique, elle va continuer à se tenir. Mais il faut bien voir que c'est une politique globale qui a d'abord été tenue au début des années 2000 avec la multiplication des tramways, des couloirs de bus et la réduction de la voirie automobile et qui aujourd'hui se continue par un deuxième type de mesure, la réduction de la vitesse et pourquoi pas demain des zones d'interdiction plus importantes.
Alors vous l'avez dit, il y a malgré tout des avantages au passage à 30 km/h, une baisse des nuisances sonores, baisse des accidents avec les piétons. Est-ce que cette mesure ne favorise pas l'avènement de la voiture électrique d'une certaine manière ?
La voiture électrique, c'est une fausse solution miracle. Certes, il va y avoir moins de dégagement de dioxyde de carbone, le fameux CO2, mais aussi du dioxyde d'azote, qui sont extrêmement nuisibles pour la santé. Mais le véhicule électrique prend la même place physiquement au sol. Donc ça ne résoudra pas les problèmes que posent les habitants des grandes villes qui veulent moins de circulation automobile et plus de place accordée aux piétons, aux cyclistes et aux services collectifs. Et puis, ça n'aidera pas à faire de ces villes des endroits où il fait mieux vivre. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction entre les besoins et les volontés des riverains, comme on dit, des habitants des grandes villes qui, eux, sont assez peu motorisés et qui veulent une autre ville, et puis tous ceux qui, pour le travail ou pour leurs loisirs ou d'autres objectifs, veulent venir dans la ville et le plus possible en automobile. Donc là, il y a une contradiction et qui se pose dans toutes les grandes villes mondiales et elle n'est pas près d'être résolue.
Qu'est-ce qu'on dit à cette dernière catégorie, à ces banlieusards qui prennent leur voiture pour aller travailler. Pour être tout à fait honnête avec vous, Gilles Dansart, j'en fais partie et j'aimerais bien pouvoir me passer de ma voiture. Sauf qu'aujourd'hui, mon temps de trajet est multiplié par 3 avec les transports en commun. Qu'est-ce que les autorités doivent dire à ces personnes-là ?
Dans l'ensemble des automobilistes qui prennent quotidiennement leur voiture, notamment pour leur travail, il y a plusieurs catégories. Une étude montre que quand le temps de transport n'est pas multiplié par plus de 1,5, le jeu vaut la chandelle et que pas mal d'automobilistes laissent peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, il suffit qu'ils laissent 2 jours sur 5, par exemple, leur voiture au garage pour qu'ils soient convaincus.
Gilles Dansart, ne serait-il pas plus logique, plus efficace que toutes les décisions liées au transport en Île-de-France soient prises par une seule et même entité qui aurait une vision d'ensemble de la situation ?
Vous avez tout à fait raison. Il serait bon qu'en Île-de-France, comme dans les grandes métropoles françaises, et à l'image de ce qui se passe, par exemple, dans une ville comme Stockholm, les décisions en matière de transport collectif et en matière de déplacement individuel, la voiture, le vélo, soient prises par une seule autorité. Ça n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est la région qui gère les transports collectifs et les municipalités qui gèrent la voirie et les circulations automobiles en liaison avec les préfectures. Ce défaut de gouvernance, ce cafouillage, donne l'impression que, d'une certaine façon, en l'occurrence, les banlieusards sont victimes de décisions qui ne sont pas cohérentes dans leur ensemble. Et donc, il faudra y remédier. Mais ça fait 20 ans qu'on en parle et 20 ans que les choses n'avancent pas beaucoup sur ce plan-là.
Merci beaucoup, Gilles Dansart, d'avoir répondu à mes questions ce matin, de nous avoir éclairé sur cette généralisation du 30 km/h à Paris. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de Mobilettre et en ce sens, grand spécialiste des transports. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci à vous.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h21, l'actualité en temps réel avec le journal permanent d'Élise Dangean.
L'ouragan Ida plonge la Nouvelle-Orléans dans le noir. La ville de Louisiane est complètement privée d'électricité quelques heures après l'arrivée d'Ida qui a été depuis rétrogradée en catégorie 2. À la veille du départ de l'armée américaine, la situation se tend un peu plus en Afghanistan. Des roquettes ont volé au-dessus de Kaboul ce matin alors que les États-Unis procèdent à leurs dernières évacuations. Il leur reste 300 personnes à exfiltrer. En France, nouvelle étape pour le pass sanitaire. Aujourd'hui, il devient obligatoire au travail pour tous les salariés en contact avec le public, dans les restaurants, les cinémas ou encore les musées. Bref, là où il était déjà requis pour les clients, le gouvernement promet une semaine de souplesse avant les sanctions. Lionel Messi a joué ses 30 premières minutes avec le Paris Saint-Germain hier, ovationné par tout le stade de Reims pour une victoire 2-0, signée avant son entrée par Kylian Mbappé pour la 4e journée de Ligue 1.
Merci Élise Dangean. Prochain journal complet à 6h30.
Mais avant, à 6h22, il est grand temps de faire place à la musique. Votre partition, Omblin, consacrée ce matin à un artiste considéré par beaucoup comme celui qui a montré la voie. Avec Qui sème le vent récolte le tempo, MC Solar apporte la preuve qu'un rap français existe loin des codes imposés par le hip-hop américain.
Au début des années 90, il fait donc partie des pionniers. Avec Dynasty, Assassin ou encore Suprême, NTM, Claude Mbarali crée un nouveau style et se glisse dans l'étroit interstice qui sépare deux clichés du rap, macho et agressif.
Bouge de là. Bouge de là.
MC Solar a 22 ans et on le découvre avec une casquette vissée sur la tête, visière sur le côté, chemise à carreaux boutonnée jusqu'en haut.
Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une patte ma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit
MC Solar, viens là que je te donne du réconfort.
J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc, elle m'a fait bouger.
Sur un instrumental signé Simone D, il écrit son premier succès au 8e étage d'une tour de la cité Toi et Joie. Alors non pas à Maison Alfort, mais à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bouge de là, c'est l'expression de son quartier pour dire « casse-toi ». Plus tard, Renaud lui dira « c'est ton laisse-béton à toi ».
MC Solar mise sur des textes simples, poétiques et pleins d'humour.
Une musique diffusée à la radio et à la télévision, le Graal, c'est que le rap soit accepté mieux, que le rap soit adapté à tous les publics. Et pour accomplir cette mission, MC Solar ne se lance pas seul. En 1989, il rencontre Christophe Vigui, alias Jimmy J, le soir où celui-ci est sacré champion de France des DJ.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts.
Grâce à leur première démo, MC Solar et Jimmy J sont reçus dans les bureaux du label Polydor.
Il n'y a seulement que 3 titres sur cette maquette, alors MC Solar se met à rapper. Un 4e à improviser, les rimes sont habiles, la diction est précise, le flow est soutenu et limpide, il fait mouche et se retrouve face au directeur artistique de la maison de disques, Hubert Blanc-Francard.
Et c'est un nom célèbre dans le milieu.
Oui, chez les Blanc-Francard, on est ingénieur ingénieur du son, musicien et producteur de père en fils, Dominique le Patriarche est une légende des studios d'enregistrement. Le frère n'est autre que l'artiste Sinclair. Quant à Hubert Blanc-Francard, il travaille main dans la main avec le regretté Philippe Sdar. Plus tard, ensemble, ils formeront le célèbre duo Cassius.
En attendant, tout ce beau monde s'apprête à bousculer le répertoire français.
Oui, avec l'album qui sème le vent, récolte le tempo. Il sort le 15 octobre 1991 et le succès est foudroyant.
J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite, ce sont deux amants. Overdose de douceur, ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, tcherno débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis. À sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles. À ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Cherche votre bonheur, je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau, carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même ego, je sens un pincement dans son cœur mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine, Caroline.
Cette chanson était sur la fameuse première maquette d'MC Solar, Caroline, extrait de Qui sème le vent récolte le tempo, à nouveau disponible depuis cet été après avoir disparu des bacs pendant 20 ans. Les deux disques suivants d'MC Solar vont paraître à nouveau à leur tour. On connaît la date pour Prose Combat, ce sera le 24 septembre. Paradisiaque devrait suivre.
C'était la partition d'Amblin Roche, ce qui se cache derrière une chanson, un disque ou un artiste. C'est toujours un plaisir à écouter, même si souvent ça nous donne quand même un petit coup de vieux.
Oui, à peine. Europe Matin. Il est 6h27 et c'est l'heure pour nous, Julien, jeune comme on est, de quitter ce studio.
L'heure pour nous de bouge de là et de voilà. Vous donner rendez-vous dès demain à 5h pour un réveil informé et souriant. En attendant, vous restez sur Europe 1, votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Amblin. On les voit les quadras là, avec M6 là, quand même. Anissa, elle n'était pas la dernière à hocher de la tête.
Permettez-moi de vous dire que je suis encore une fin de trentenaire, une fin peut-être. Ah, mais oui.
Plutôt proche de la fin que du début.
Oui, voilà. Merci Dimitri.
C'est élégant.